VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à toutes et à tous, Anastasie Kudiach avec vous, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire, en Guinée, les autorités appellent au calme après des violences meurtrières à la suite des élections locales. En Afrique du Sud, le refus du président Jacob Zuma de démissionner plonge le pays dans une crise politique. Au Nigeria, des troupes déployées dans le centre du pays, théâtre d'un conflit entre chrétiens et musulmans. En Israël, le choix cornélien des migrants africains sommés de quitter le pays ou aller en prison. Et puis au Congrès américain, républicains et démocrates ont annoncé un accord sur le budget. Dans 10 minutes, c'est la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal. En Guinée, les autorités appellent au calme après la mort de 7 personnes dans des violences après les premières élections locales depuis 2005. Le point Morgane Guiriec.
La Commission électorale nationale indépendante invite les acteurs politiques et les candidats à faire preuve de retenue dans l'attente des résultats. La CENI appelle également les services de sécurité à travailler davantage pour l'instauration d'un climat de paix. De son côté, l'ONU regrette les récentes violences qui ont occasionné des pertes en vie humaine. Le calme était revenu ce matin à Conakry où des manifestants de l'opposition ont bloqué hier la circulation dans plusieurs quartiers de la banlieue pour exiger la publication des résultats, accusant le pouvoir de vouloir les modifier en sa faveur. La CENI, seule instance habilitée à proclamer les résultats, a promis de les publier d'ici la fin de la semaine. D'après les autorités, 5 nourrissons ont péri mardi dans un incendie volontaire à Kalenko. Les précédents scrutins en Guinée, les présidentielles et les législatives, ont été émaillés de violences et d'accusations de fraude.
Morgane Guiriec. L'armée nigériane a annoncé qu'elle enverrait des troupes dans les états du centre du pays pour mettre fin aux violences entre agriculteurs chrétiens et éleveurs musulmans qui ont fait des centaines de morts ces dernières semaines. Le déploiement de l'armée doit commencer le 15 février. Toujours au Nigeria, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, s'est dit déterminé, dans une vidéo publiée hier, à poursuivre le combat quelques jours après que les militaires nigérians ont assuré que le mouvement djihadiste avait été vaincu. La personne qui se réclame du nationalisme, nous la combattons. La personne qui prône de diffuser l'éducation occidentale, celle des mécréants, nous la combattons, a déclaré Aboubakar Shekau. Les chefs d'État du G5 Sahel, comprenant la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, réunis en sommet hier mardi à Niamey, ont réitéré leur demande à la communauté internationale d'un soutien financier supplémentaire pour leurs forces militaires conjointes. La force devrait compter 5000 soldats des 5 pays impliqués d'ici à la mi-2018, avec pour mission la lutte contre les groupes djihadistes qui sévissent dans la région sahélienne. Mais ces pays, comptant parmi les plus pauvres du monde, peinent à boucler leur financement estimé à 250 millions d'euros. 10 partis d'opposition tchadiens qui avaient soutenu un appel à manifester mardi des syndicats ont été suspendus aujourd'hui pour 2 mois pour trouble à l'ordre public et incitation à la violence. Le ministre de la Sécurité Ahmad Mahamad Bachir avait averti mardi que les partis qui tenteraient de défier l'autorité de l'État seraient suspendus. Au Kenya, le président de la Cour suprême dénonce le récent mépris des autorités vis-à-vis de plusieurs décisions de justice. Le point Chérubin Dorsil.
Le juge David Maraga est célèbre depuis sa décision historique d'annuler le résultat de la présidentielle du 8 août dernier et d'ordonner un nouveau scrutin. Il a rompu le silence suite au non-respect de plusieurs décisions de justice après l'investiture symbolique de l'opposant Raila Odinga comme président du peuple. La police kenyane a refusé d'obéir à 2 ordres séparés de libérer sous caution l'opposant Miguna Miguna. Il a finalement été expulsé hier vers le Canada. Par ailleurs, l'autorité des communications a traîné des pieds pour appliquer partiellement une autre autre décision. La justice avait ordonné la levée de la suspension d'antenne pour 4 chaînes de télévision. 2 chaînes ont repris leurs émissions lundi, pendant que 2 autres sont toujours interdites de diffusion. Pour le juge Maraga, désobéir à une décision de justice représente une violation de la Constitution et menace l'état de droit. La réélection du président Uhuru Kenyatta en 2017 a été accompagnée de plusieurs mois de troubles qui ont fait au moins 92 morts au Kenya.
Le sort du président sud-africain Jacob Zuma, pressé de toutes parts de démissionner, devrait être connu dans les prochains jours, selon Cyril Ramaphosa, chef du parti au pouvoir et possible successeur de Zuma à la tête de l'État. Des précisions avec Didi Dico.
Hier soir, le président Jacob Zuma et moi-même avons entamé des discussions directes sur la transition et les questions liées au poste de président de la République, a déclaré Cyril Ramaphosa dans un communiqué. Il a ajouté que Jacob Zuma et lui seront en mesure de rendre compte au pays dans les prochains jours. Monsieur Ramaphosa a également estimé que les discussions ont été constructives et ont permis de poser les fondations d'une résolution rapide de la situation. Le numéro 1 de l'ANC s'est dit conscient que l'incertitude liée au poste de chef de l'État est une source d'inquiétude pour les Sud-Africains. Depuis l'élection de Cyril Ramaphosa à la tête du parti au pouvoir, la pression monte pour obtenir le départ du président Zuma, cité dans plusieurs affaires de corruption.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, Israël se prépare à expulser des milliers d'Érythréens et de Soudanais entrés illégalement dans le pays et qui n'ont pas de demande d'asile. Ils doivent partir d'ici au 1er avril ou aller en prison. Yacouba Ouedraogo.
Israël n'a pas dévoilé les pays qui vont accueillir ces migrants qui doivent être expulsés, dont la plupart sont originaires de l'Érythrée et du Soudan. Les organisations d'aide aux migrants parlent de l'Ouganda et du Rwanda comme leur future terre d'accueil, mais Kigali et Kampala ont démenti tout accord avec Israël. Les autorités israéliennes distribuent des lettres aux migrants pour renouveler leur permis de séjour de 2 mois. Pour le moment, le document est adressé uniquement aux hommes. Ils ont 60 jours pour quitter le pays avec un pécule de 3 500 $. Ce plan d'expulsion est désapprouvé par le HCR et des survivants de l'Holocauste qui estiment que leur pays a le devoir de protéger les migrants. D'après le ministère de l'Intérieur, 42 000 migrants africains vivent en Israël. Plus de 15 000 ont demandé l'asile. 6 600 dossiers ont été traités et seulement 11 ont reçu une réponse favorable.
Yacouba Ouedraogo, en Allemagne, épilogue à un vide politique inédit de plus de 4 mois dans le pays. Angela Merkel, 63 ans, se dirige vers un 4e mandat de chancelière grâce à un accord de gouvernement conclu aujourd'hui entre son parti et les sociaux-démocrates après 4 mois d'impasse. En Italie, l'avocat de Luca Traini, auteur de la fusillade à caractère raciste qui a fait au moins 6 blessés samedi en Italie, a déclaré recevoir un flot de messages de solidarité pour son client. Samedi, l'agent de sécurité de 28 ans a tiré sur une dizaine d'Africains à Macerata, dans le centre de la péninsule, avant de s'arrêter pour attendre la police, enveloppée d'un drapeau italien. Il a motivé son geste par une forte pulsion de colère liée à la mort de Pamela, une jeune fille de 18 ans qui aurait succombé à une overdose et dont le corps a été retrouvé découpé en morceaux à Macerata. Son avocat rapporte que c'est l'annonce à la radio de l'arrestation d'un Nigérian dans cette affaire qui a déclenché la colère de Luca Traini et la fusillade qui s'en est suivie. Ici aux États-Unis, à la veille d'une nouvelle date butoir, les chefs de la majorité républicaine et de l'opposition démocrate du Sénat américain ont annoncé avoir scellé un accord budgétaire portant sur 2 ans, un rare compromis qui devrait réduire le risque de crise en 2018 et en 2019, et ce, dès cette semaine. Les négociations entre les deux parties sur le budget de la défense et d'autres priorités ont produit un accord important, c'est ce qu'a déclaré le républicain Mitch McConnell. Politique étrangère américaine, le vice-président américain Mike Pence a annoncé aujourd'hui à Tokyo, au Japon, que Washington s'apprêtait à dévoiler les sanctions économiques, je cite, les plus dures, fin de citation, jamais prises contre la Corée du Nord. Et pendant ce temps, un nouveau signe de rapprochement entre les deux Corées, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sera la première représentante de la famille régnante à se rendre au Sud à l'occasion des Jeux Olympiques d'hiver. Et puis, très impressionné par le défilé militaire du 14 juillet sur les Champs-Élysées, le président américain Donald Trump a demandé au Pentagone d'organiser une parade qui montrerait la puissance de l'Amérique au reste du monde, une requête qui ne fait pas l'unanimité. Plus de 3000 militaires et policiers brésiliens participaient aujourd'hui à une vaste opération pour tenter de capturer des chefs du trafic de drogue, dans l'une des cités les plus violentes de Rio de Janeiro, la cité de Dieu, une cité rendue célèbre par le film éponyme de Fernando Meirelles. 10 personnes ont été emmenées au commissariat pour être identifiées, selon le site d'information G1, faisant état de 22 interpellations au total. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco et ce soir, c'est Eric Maniarakiza qui vous la présente.
Le Cameroun compte lever 96 milliards de francs CFA auprès des banques locales pour l'exécution du budget 2018. D'habitude, ce genre de fonds sert au financement de certains projets et à oxygéner la trésorerie de certaines entreprises publiques. L'Ouganda a besoin de 388 millions de dollars pour relancer sa compagnie aérienne National Uganda Airlines avant octobre 2018. Des patrons français et algériens ont créé un conseil d'affaires algéro-français qui servira de cadre de travail pour favoriser un échange régulier entre les deux centrales patronales. Une soixantaine de chefs d'entreprise français est à Alger. Ces patrons réclament une plus grande clarté dans la simplification des procédures douanières et de clarification sur les exigences à l'importation. Le Parlement éthiopien a adopté une hausse du budget fédéral de 511 millions de dollars pour l'exercice 2017-2018. Ce budget additionnel sera affecté au fonds consacré à la jeunesse, à l'amélioration des capacités d'accueil de l'université d'Addis Abeba, à l'acquisition d'équipements pour le programme de numérisation du système de télé et radiodiffusion dans le pays, au soutien des personnes touchées par des catastrophes naturelles et aux institutions gouvernementales qui sont confrontées à des difficultés budgétaires.
Place au sport à présent avec vous, Nicolas Tino. Bonsoir.
Bonsoir Anastasie, bonsoir à tous.
Et on commence avec la liste des joueurs africains les mieux payés de la Ligue 1.
Oui, le journal L'Équipe qui publie une enquête annuelle sur les salaires des joueurs de la Ligue 1. Si le Paris Saint-Germain domine largement le classement global établi par le quotidien sportif, avec 9 joueurs dans les 10 premières places, 2 internationaux africains se glissent dans le top 30. Le Sénégalais de l'AS Monaco, Keita Baldé, 22e, salaire brut mensuel 340 000 euros. Et le Burkinabé de l'Olympique Lyonnais, Bertrand Traoré, 24e, salaire mensuel 300 000 euros, ça fait rêver.
Et puis le Bayern est en demi-finale de la Coupe d'Allemagne.
Le Bayern Munich qui s'est qualifié hier soir en atomisant Paderborn, 6 buts à 0. Ce club est pensionnaire de la 3e division allemande. Finaliste malheureux la saison dernière en Coupe d'Allemagne, le club allemand est le plus titré dans cette compétition avec 18 victoires. Le Bayern Munich n'a pas fait de sentiment face aux petits poussés de la compétition. Les Français ont marqué Coman, Tolisso ou encore Franck Ribéry qui est rentré à 10 minutes de la fin pour inscrire son but grâce à une passe décisive de Robben.
L'équipe de rugby du Zimbabwe a un nouveau sélectionneur, Nicolas.
L'ancien sélectionneur de l'Afrique du Sud, Peter de Villiers, a été nommé à la tête de l'équipe du Zimbabwe où il succède à Sepuya Madenge. C'est ce qu'annonce la fédération zimbabwéenne de rugby. De Villiers, c'est le premier sélectionneur noir de l'histoire des Springboks entre 2007 et 2011. Il a signé un contrat de 2 ans. On rappelle que le Zimbabwe a déjà participé à 2 Coupes du Monde de rugby en 1987 et en 1991 sans y remporter la moindre victoire.
Et on termine avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Dans un match au sommet de la conférence Est, Toronto a dominé Boston 111 à 91, tandis que Cleveland tombe pour la 22e fois de la saison, 116-98 contre Orlando. James Harden a franchi le seuil des 15 000 points marqués en NBA grâce à ses 36 points marqués lors de la victoire de Houston face à Brooklyn 123-113. Et puis les Golden State Warriors se sont inclinés face à Oklahoma City 125-105.
Merci Nicolas Pino.
Le Monde. Le Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
On a déjà l'expérience de sanctions en Guinée-Bissau. Hein. Après le coup d'État de 2012, il y avait...
Anastasie Tudiech avec vous pour la deuxième partie du Monde aujourd'hui. Voici les dossiers du jour. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest a décrété des sanctions contre 19 personnalités bissau-guinéennes, dont des proches du président José Mario Vaz. La CDAO les accuse de non-respect d'un accord de sortie de la crise politique. Le pays traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son premier ministre Domingo Simões Pereira. Pour analyse, Abdourahmane Dia joint à Paris Vincent Fouché, spécialiste de la Guinée-Bissau à l'international Crisis Group.
On a déjà l'expérience de sanctions en Guinée-Bissau. Après le coup d'État de 2012, il y avait eu des sanctions qui avaient été prises. Elles n'avaient pas forcément marché dans l'immédiat, mais c'est vrai qu'elles avaient quand même eu un impact, disons, de moyen terme, en assouplissant un peu la position des militaires. Est-ce que ce sera la même chose ? Les hommes politiques concernés sont des gens qui sont quand même beaucoup plus internationalisés que les militaires de 2012. Des gens qui voyagent, des gens qui ont des maisons, des comptes en banque, en dehors du pays aussi. Donc peut-être que ça va les toucher. Ceci étant dit, on est quand même dans quelque chose qui est une lutte vraiment très très tendue pour le contrôle du PIGC, pour le contrôle de l'État.
Est-ce qu'on peut dire que la CDAO a été irritée après tant d'années de patience avec les multiples médiations de l'ancien président nigérian Obasanjo?
Oui, alors c'est vrai que la CDAO est un peu en charge du dossier depuis 2012. Elle y a perdu quelques plumes, d'ailleurs, à un moment. Et puis, maintenant, elle commence à être un peu lassée. Elle a porté donc les accords de Conakry de 2016, là, qui étaient censés offrir une piste de résolution à la crise politique. Mais ces accords ne sont pas appliqués et la CDAO s'agace. Et la CDAO cible assez précisément un camp, hein, le camp du président de la République, José Mario Vaz.
Et justement, quel est le rôle de l'armée dans tout cela? C'est vrai que depuis 2012, on n'a pas connu de coup d'État, mais c'est un pays quand même qui a vécu plusieurs coups d'État, donc l'armée n'est jamais très loin.
Oui, alors l'armée a été échaudée par la suite de 2012, hein, par les conséquences du coup d'État et la pression internationale. Par ailleurs, il y a une petite force de la CDAO qui compte environ 500 hommes. Et puis on a vu avec l'affaire Gambienne, hein, que la CDAO quand même pouvait représenter éventuellement une force militaire le cas échéant. Donc du côté de l'armée, on a une volonté d'essayer de jouer le jeu, hein, de ne pas perturber le jeu démocratique, en tout cas pour le moment. Ceci étant dit, il y a eu en décembre, hein, l'annonce de l'arrestation de plusieurs militaires de rang intermédiaire pour un projet d'assassinat contre le chef d'état-major. Donc on peut encore imaginer, c'est une armée très factionnalisée, hein, dans laquelle un certain nombre d'hommes politiques ont des connexions. On peut imaginer à un moment ou à un autre que des morceaux de l'armée... c'est toujours évidemment une possibilité à Bissau.
Pourquoi le président Vaz n'arrive pas à contrôler l'État et le parti PAIGC en Guinée-Bissau? On a vu plusieurs premiers ministres défiler depuis 2012.
En fait, on a un système qui est un petit peu bicéphale, hein, avec un Premier ministre qui est quand même très fort et qui contrôle la gestion de l'État au quotidien, et puis un président qui a quand même des pouvoirs assez significatifs, notamment la nomination du procureur général, enfin toute une série de pouvoirs.
C'était Vincent Fouché, joint à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Au Cameroun, inquiétude dans les rangs des avocats des 47 personnes extradées récemment du Nigeria, parmi lesquelles Ayouk Tabé, leader des séparatistes anglophones. Ils affirment n'avoir aucune nouvelle de leurs clients. Cette situation provoque également de vives critiques de la part des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun. Pendant ce temps, la tension ne cesse de monter en zone anglophone. C'est une correspondance à Yaoundé d'Emmanuel Jules Tap.
À Yaoundé, c'est l'inquiétude qui a gagné le camp du collège d'avocats devant assurer la défense des 47 personnes extradées du Nigeria. À 4 reprises, ceux-ci ont tenté en vain de rencontrer les 47 sécessionnistes. Maître Claude Assira, l'un des 4 avocats du dit collège.
Je doute fort que l'identification de ces personnes ait été faite et qu'ils puissent être aujourd'hui indiqués avec précision ce qui peut être reproché à l'une ou l'autre de ces 47 personnes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien, ni a fortiori qu'il puisse y avoir une documentation de ces reproches et griefs éventuels. Voilà, par conséquent, on est tous dans le flou total. Je doute fort que les autorités de poursuite soient elles-mêmes plus renseignées que nous. Et c'est regrettable que nous n'ayons pas la possibilité d'accéder à ces personnes. Il est dommage pour la vérité qu'elles prennent des chemins aussi tortueux.
Le lieu de détention des 47 est toujours tenu secret. Le gouvernement camerounais a démenti cependant le 2 février dernier les rumeurs d'exécution extrajudiciaire des concernés. Il a en outre affirmé que ceci était en exploitation par la police judiciaire. Une démarche que critique Maximilienne Gombe, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, basée à Douala, au Cameroun.
Vous dites qu'ils sont en exploitation. On ne sait pas si c'est le procureur de la République, on ne sait pas si c'est le commissaire du gouvernement. On est dans un pays de droit.
En zone anglophone, la peur et la colère dominent désormais les esprits des populations depuis l'extradition des sécessionnistes arrêtés au Nigeria. C'est du moins un avis que partage Dr Hilaire Kamga, porte-parole de la plateforme pour la société civile, un militant des droits humains qui a séjourné en zone anglophone pendant ces 10 derniers jours.
Les populations sont en colère, colère contre la République du Cameroun, colère contre les extrémistes séparatistes aussi. En colère aussi contre la gendarmerie et les forces spéciales, parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde peut être d'office considéré comme potentiel terroriste. Chaque jour qui passe, il y a des gens qui sont tués.
C'est devant le tribunal militaire de Yaoundé que Ayouk Tabé Sissoukou et 46 autres sécessionnistes devraient passer à la barre et encourent la peine de mort. Une option des pouvoirs publics, globalement soutenue à Yaoundé par la population.
Ils doivent vraiment subir une justice très ferme.
On ne négocie pas avec les terroristes. Regardez combien de familles ont perdu, les gens sont en deuil au jour d'aujourd'hui par leurs propres frères.
Lundi dernier, le département d'État américain a demandé aux autorités camerounaises de respecter le droit à une procédure judiciaire en bonne et due forme pour les 47 personnes extradées du Nigeria vers le Cameroun. Yaoundé, Emmanuel Julmta, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Malgré la récente chute du bitcoin, les Nigérians utilisent de plus en plus les crypto-monnaies. Le pays pétrolier de 190 millions d'habitants est d'ailleurs le troisième détenteur de bitcoins au monde en pourcentage du PIB, derrière la Russie et la Nouvelle-Zélande, selon un rapport publié en décembre par la banque américaine Citigroup. Pour un éclairage, Ekia Badou a joint à Paris Cheikh Kone, investisseur dans le bitcoin et cryptocurrency.
L'Afrique a connu ces dernières décennies des dévaluations en fonction de leur monnaie, ce qui a certainement créé des conflits ou une perte de richesse pour les monnaies des pays africains. Donc l'arrivée du Bitcoin est déjà une révolution en soi et encore plus pour l'Afrique. C'est une opportunité et par le futur, ce sera vraiment une révolution.
Alors une opportunité, une révolution, il y a des jetons virtuels, le token, qui peuvent servir à acquérir des bons d'achat. Il y a même la société Surumit qui a mis sa propre crypto-monnaie. Qu'en pensez-vous?
La concurrence, elle peut être positive pour les clients, mais en même temps, ça peut être un piège. Pourquoi? Parce que le but principal des tokens, un token, il est spécial, on dit qu'il est spécial et qu'il va rapporter beaucoup d'argent, dans le sens où il a une particularité spéciale pour la population, pour l'environnement, d'accord? Si un token n'a pas de particularité, il ne vaudra rien. Ce sera peut-être, admettons, s'il part de zéro lorsqu'on lance le token, il arrive à 10 centimes et après il redescend et il meurt, ça ne sera pas un avantage pour les populations. Donc je pense que derrière ce mot token, il y a des scammers, ce qu'on appelle des scammers, des gens qui veulent voler l'argent des contribuables et de la population, lancent, comme partout, dans toute industrie, il y a des scammers, ils lancent des faux tokens pour pouvoir attirer ceux qui justement ne connaissent pas ces nouvelles monnaies qui sont en train d'arriver, ils veulent entre guillemets les arnaquer.
Alors par rapport à l'arnaque justement, les détracteurs parlent de manque de régularisation. Comment rassurer les futurs acquéreurs?
Je pense déjà que la particularité du Bitcoin, c'est que justement il est dérégulé. Donc si on parle de régulation, c'est comme si on retournait dans le système des monnaies fiat que l'on voit actuellement. Le mot régulation, c'est je pense un piège que les différents gouvernements dans le monde sont en train de créer.
Alors comment légiférer dans ce cas pour avoir plus de sécurité?
Pour avoir plus de sécurité, je pense que les systèmes comme Visa et Mastercard devraient travailler en étroite collaboration avec le Bitcoin et toutes les grandes crypto-monnaies pour essayer justement de sécuriser les transactions. Je pense que c'est, à mon avis, la seule solution pour l'instant.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La fusée la plus puissante du monde, Falcon Heavy de SpaceX, a entamé une mission historique mardi en lançant en direction de Mars une décapotable Tesla rouge conduite, entre guillemets, par le mannequin Starman, au rythme de la chanson culte de David Bowie, Space Oddity. L'homme d'affaires Elon Musk, qui a lancé ce projet en 2011, semble se rapprocher de son rêve de coloniser la planète Mars. Pour une analyse de la conquête de l'espace, Nathalie Barge a joint à Cambridge l'astrophysicien Didier Queloz. Écoutons-le.
Ce qui est assez spécial dans cette fusée, c'est qu'on retrouve une fusée aussi puissante que les fusées qui avaient été développées pour le programme Apollo. C'est-à-dire que c'est des fusées qui peuvent emmener des grandes quantités de matériel relativement loin dans le système solaire. Alors l'ambition affichée du programme, c'est d'amener des gens, et pas uniquement une ou deux personnes, hein, vraiment de coloniser la planète Mars. Et c'est cette partie qui est absolument fascinante dans ce programme, parce que jusqu'à présent, tout ce qu'il dit, il le fait, Monsieur Musk. Donc on peut bien imaginer qu'effectivement, il va aller sur Mars avec cette fusée. Donc on est vraiment à l'aube d'une conquête spatiale du système solaire actuellement.
Et la planète Mars, est-ce que cette planète pourrait être habitable ?
Alors, lors de la formation du système solaire, Mars devait ressembler énormément à la Terre. Donc on sait que la vie sur Terre, on a des traces de vie sur Terre à peu près environ 1,5 milliard d'années après la formation de la Terre. Donc on se dit qu'il n'est pas exclu que la vie soit également quelque part sur Mars à ce moment-là. Maintenant, ce qui s'est passé après, Mars a perdu son atmosphère parce qu'elle est plus légère, et puis on sait qu'il n'y a pas de vie à la surface. Mais il y a beaucoup d'espoir qu'il y ait des traces de cette vie, et surtout récemment, on a mesuré des remontées liquides qui venaient des profondeurs de Mars. On pense que c'est de l'eau, on a vu en fait des coulées de boue. Tout en coup, ça réactive l'intérêt de se dire, mais en fait, s'il y a de l'eau dans les profondeurs, est-ce qu'il n'y aurait pas également de la vie dans les profondeurs? Pour moi, c'est l'intérêt énorme, et d'envoyer des gens, se donner les moyens d'aller chercher la présence de vie sur Mars.
Mais est-ce qu'on peut envisager, un petit peu comme on voit dans les films de science-fiction, une colonie, par exemple, habitée dans une sorte de bulle sur ce genre de planète?
Du point de vue technique, je pense qu'on peut l'imaginer. Maintenant, du point de vue psychologique, ça reviendrait à une séparation de la Terre. Donc je ne sais pas comment nous, les humains, on pourrait vivre ça. Ça restera à des conditions extrêmement difficiles. C'est beaucoup plus difficile de rester sur Mars que d'aller au pôle Sud. Vous êtes dans un environnement qui est extrêmement hostile, extrêmement dangereux, en plus que vous n'êtes pas protégé des rayonnements solaires. Mais on peut imaginer que vous recréez quelque part une sorte de zone protégée.
Est-ce que l'on pourrait imaginer aussi l'homme capable de recréer une atmosphère similaire à celle de la Terre?
Oui, absolument. On peut tout à fait modifier l'atmosphère d'une planète. On le fait maintenant sur Terre de manière assez efficace. Et si on continue comme ça, la Terre va devenir inhabitable. Donc oui, on peut le faire. Maintenant, est-ce qu'on va arriver à le faire dans le bon sens du terme? Je réponds toujours en disant, avant de vouloir modifier l'atmosphère de Mars, pourquoi on n'essaierait pas de régler le problème du global warming sur Terre d'abord, et puis on se préoccupe de rendre la Terre parfaitement habitable? Mais oui, on peut, si on a du temps, on peut le faire.
C'était l'astrophysicien et chercheur Didier Queloz.
Man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. When we call up on no and show up, man, them that's got ties. When my homies pull up on your block, they make that tango gratatata. Hey, switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace.
C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la réalisation, Cheikh Siro, aidé de Otke et Eden. Merci à eux. Merci à vous, chers auditeurs, de votre attention. Restez sur VOA Afrique pour l'actualité 24 heures sur 24, aussi bien sur notre site internet que sur notre page Facebook.